C'est d'actu avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Bonjour et bienvenue dans C'est d'actu avec un nouvel animateur. Je suis Charlie Pless et je suis ravi de vous accompagner tous les jours de 18h à 19h sur notre antenne pour vous parler d'actualités locales, d'initiatives culturelles et de décrypter les enjeux politiques et sociaux d'aujourd'hui avec mes invités. Vous n'entendrez donc plus la voix de Robin Hulin, mais rassurez-vous, vous retrouverez des voix familières dans celles de mes chroniqueurs. Et puis la formule restera sensiblement la même, c'est-à-dire de l'actu, de la culture et des sujets de société. On est donc parti pour cette première émission de C'est d'actu avec Charlie Pless. Et pour aujourd'hui, on va donc parler de la fête de la science qui place la ville du Mans sous un océan de savoir jusqu'au 14 octobre. On sera avec Maude Barré, ambassadrice régionale de la fête de la science. Puis nous recevrons Julie Delpech, députée Renaissance de la première circonscription de la Sarthe, qui nous livrera son regard, entre autres, sur le nouveau gouvernement et le discours de politique générale du Premier ministre Michel Barnier. Enfin, nous écouterons un reportage sur la grande dictée de Faites-Lire qui a eu lieu le jeudi 3 octobre, un moment ludique et intergénérationnel, et oui, auquel moi et Robin Hulin avons participé. Robin Hulin, que vous aurez donc la chance d'entendre une dernière fois. Sans plus attendre, on démarre cette émission avec nos premiers invités.
Radio Alpa, l'alternative. Radio Alpa, l'alternative.
Bonjour Maude Barré.
Bonjour.
Alors vous êtes ambassadrice régionale de la Fête de la Science et vous venez nous parler du programme de la Fête de la Science qui a débuté ce 4 octobre et qui se prolonge jusqu'au 14 octobre. Alors c'est un événement qui est placé cette année sous la thématique de l'océan. Est-ce que dans un premier temps on peut rappeler ce qu'est la Fête de la Science et en quoi ça consiste concrètement ?
La Fête de la Science, c'est une période qui revient tous les ans, donc d'environ 15 jours, dédiée à la science pour mettre la science en avant, tous les types de sciences. Et cette période en Sarthe est marquée par trois villages des sciences, notamment donc, des événements gratuits ouverts à tous les publics. On a eu un village des sciences à Sablé le week-end dernier, un village des sciences au Mans à l'abbaye de Lépau qui aura lieu le week-end prochain, donc le 12 et le 13, et un autre village des sciences qui sera pour la première fois accueilli dans un lycée en Sarthe à Mamers le 10 octobre.
Très bien. Alors vous dites que ça s'adresse à tous les publics, mais est-ce qu'il ne faut pas maîtriser un certain champ technique de connaissances pour apprécier les différentes conférences animations, ou bien est-ce qu'il s'agit de présentations vulgarisées ?
L'idée, c'est vraiment de faire du grand public, donc c'est vraiment de s'adresser à tous. C'est notre exercice à nous, scientifiques, associations, d'adapter notre langage pour être compréhensible par le plus grand nombre.
Et alors, est-ce que vous constatez un engouement d'année en année pour cet événement ?
Oui, alors c'est assez marrant parce qu'en fait, on va avoir les habitués qui nous attendent, qui reviennent tous les ans. On a des petits nouveaux tous les ans aussi. Alors c'est vrai que c'est un public qui est très familial avec beaucoup donc les enfants accompagnés de leurs parents. Et on voit aussi des enfants grandir justement et devenir de plus en plus pointus ou nous dire « Ah mais attends, je t'ai déjà vu l'an dernier ». Mais on a des petits nouveaux aussi tous les ans qui découvrent ça.
Oui, parce que c'est accessible à tous, mais est-ce qu'il y a un profil de public plus particulier
Le seul profil, je dirais, indispensable, c'est curieux.
Curieux, d'accord.
Voilà, c'est tout. Il faut être curieux.
Eh ben, très bien, bah, c'est effectivement, c'est suffisant, curieux. Enfin, quels sont vos partenaires pour cet événement ?
Alors, la Fête de la Science est organisée, coordonnée au niveau de la Sarthe par Maine Science. Qui est une association de CST, donc culture scientifique, technique et industrielle, qui va donc coordonner tous les événements qui vont avoir lieu en Sarthe. Et ensuite, présent sur les villages où il y a plein d'autres aussi propositions, il va y avoir les musées, bien sûr, qui vont proposer des choses, des associations, les écoles et l'Université du Mans. Qui est aussi un très gros partenaire avec beaucoup d'enseignants et de chercheurs qui se mobilisent pour cet événement.
Et comment est-ce qu'on fait, en fait, d'ailleurs, pour organiser la programmation d'un tel événement scientifique ? Comment ça se passe ?
Alors, en fait, il y a un appel à projet qui est lancé. On l'attend tous les ans. Maintenant, on est habitués. Donc, il y a un appel à projet qui est lancé généralement au mois d'avril. Et voilà, chacun essaie de réfléchir à un projet qui pourrait coller à la thématique ou non, ce n'est pas obligatoire. Et va dire, bah voilà, moi je voudrais m'adresser plutôt à tel public ou à un public très large. Et on va proposer ça à Maine Science. Et après, Maine Science va voir comment coordonner tout ça. L'intérêt, c'est d'avoir le plus grand nombre possible et le plus grand nombre de propositions possibles.
Et c'est quoi comme type de proposition qu'on vous fait alors?
On va avoir des expositions, on va avoir des petites conférences, on va avoir, pour le Village des Sciences, le plus courant, c'est un stand avec une activité.
Ok.
Donc une activité, est-ce que le mieux c'est quand les enfants et tout le monde peut un petit peu manipuler, se poser des questions. Il y a des quiz aussi qui sont proposés. Toutes les propositions innovantes sont les bienvenues.
Et alors du coup, le choix de la thématique se fait en avant ou en aval de ces propositions-là?
Le choix de la thématique, il est national. En fait, on a tous les ans, alors c'est arrivé, moi depuis que je suis ambassadrice, je découvre ça, le choix de la thématique est donné en janvier.
D'accord.
Donc au niveau de la coordination régionale, cette fois-ci, on s'empare de la thématique, on voit comment la décliner, comment la traduire. Et après, chaque section départementale renvoie cette thématique à tous les partenaires habituels et dit « bon bah voilà, maintenant on en fait quoi ?» en lançant des petites propositions, des petits fils rouges, on va dire, et puis après, on s'en empare.
Alors, petite précision, peut-être quand on parle de la fête de la science, en fait, qu'est-ce qu'on entend exactement par science? De quelle discipline est-ce qu'on parle?
On parle de toutes les sciences, et ça, je tiens vraiment à insister là-dessus. Moi, je viens de la chimie, donc c'est vrai que la chimie est considérée comme une science, on va dire, par tout le monde.
C'est un peu l'archétype de la science.
Mais voilà, c'est vrai que généralement, les gens vont entendre par science physique, chimie, biologie. Et en fait, là, c'est vraiment toutes les sciences, c'est-à-dire qu'il y a la géographie, il y a l'histoire, il y a tout ce qu'on appelle les sciences humaines, ce sont aussi des sciences. Et on va avoir des enseignants-chercheurs, des associations, des musées qui ont des choses à raconter dans tous les domaines. Donc c'est pour ça que, comme je le disais au départ, l'important c'est d'être curieux. Curieux de tout, c'est de la culture générale.
Et alors pourquoi est-ce que c'est aussi important cette multidisciplinarité?
C'est pour montrer en fait qu'il n'y a pas une science, il n'y a pas un choix, mais que quelque part on a tous une même démarche. C'est se poser une question. Et travailler en équipe pour proposer des hypothèses, résoudre un problème. Et quelle que soit en fait la science qu'on pratique, la démarche est toujours la même. Il y a une logique qui est la même. Et puis il y a aussi après un retour d'expérience qui est construit un petit peu de la même façon, même si on a nos différences de discipline. Et en plus, généralement, on est liés.
Okay.
C'est-à-dire que je suis chimiste, mais je travaille avec des gens qui font d'autres choses que de la chimie.
Alors, cette thématique de l'océan, qu'est-ce qu'elle implique, en fait, comme enjeu scientifique?
Alors, la thématique, c'est un océan de savoir. Donc, c'est vrai qu'on s'est beaucoup attaché au mot océan, mais c'est un océan de savoir, ce qui fait qu'il y a le côté océan où là, effectivement, on sait que les océans, c'est une grosse question. Il faut les préserver. Les océans, c'est un lieu de biodiversité monstrueux. C'est aussi un lieu de pollution. Monstrueux. Donc, il y a plein d'enjeux qui tournent autour des océans et c'est eux qui nourrissent la planète. Donc, il y a vraiment le côté océan. Mais il y a le côté aussi, ce jeu de mots, un océan de savoir, où en fait, on ouvre vraiment à tous les savoirs parce que aller à la fête de la science, c'est effectivement peut-être chercher à venir nourrir cet océan de savoir.
Et alors, est-ce qu'il existe des disciplines scientifiques spécifiques à l'étude des océans? Désolé, je reviens du coup sur les océans, mais c'est vrai que c'est quand même ce qui est mis en avant, y compris d'ailleurs dans la fiche promotionnelle.
Oui, et là, sur cette thématique d'océan, bien sûr, on va avoir nos collègues de biologie qui vont être très mobilisés autour, d'une part, de la biodiversité et vraiment de cette préservation de biodiversité. Et je pense que nombreux d'entre nous n'imaginent pas... ce qu'il peut y avoir au fond des océans et qui sera peut-être important pour notre avenir. On a les collègues chimistes donc, de mon laboratoire qui s'intéressent aussi au problème de la pollution et notamment de la pollution par les plastiques. On a entendu parler de cette histoire de septième continent.
C'est ça? Non, c'est pas l'épiphase, c'est un autre sujet encore?
Oui, enfin là, je voudrais pas dire de bêtises parce que c'est pas c'est pas ma spécialité,
non,
mais là,
on
est vraiment sur l'histoire, enfin ce fameux septième continent et ces microplastiques qui viennent polluer l'océan, qui sont éventuellement ingérés par les organismes qui vivent dans cet océan et où en fait on tourne un petit peu en rond avec ces histoires de plastique. Donc on a les collègues qui travaillent sur les polymères qui vont s'intéresser beaucoup à ces histoires de plastique. On va avoir les collègues géographes et topographes qui vont parler de la géographie des océans et de tous les territoires. Les collègues de géosciences qui vont parler de ces océans. Et pour deux choses, d'abord, on pense que, enfin même on en a la preuve, que sous les océans se cachent des poches d'hydrogène naturel, et on parle beaucoup d'hydrogène comme vecteur d'énergie. Et il y a aussi le changement climatique qui provoque des changements au niveau des pôles et qui vont sûrement provoquer des changements au niveau des océans.
Donc derrière ces enjeux scientifiques, il y a aussi quelque part des enjeux politiques.
Tout est toujours de toute façon lié, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'on parle de science et de problèmes comme ça, on parle d'environnement. On sait qu'il y a une prise conscience générale qui doit être faite, qui est en train de se faire quand même, on ne va pas se mentir. La prise de conscience, elle est en train de se faire, mais que derrière, ça va bien sûr engranger des questions politiques, des questions économiques. On n'a pas fini.
Et pourquoi est-ce que les océans sont des éléments centraux dans ces problématiques-là liées à l'environnement et au changement climatique ?
Alors, les océans, c'est ce qui recouvre la plupart de la planète, en fait. Et effectivement, c'est un réservoir de nourriture pour nous, c'est un réservoir d'eau. Les océans, ils jouent sur notre climat énormément. Donc, effectivement, les océans sont un enjeu énorme pour la vie humaine sur Terre.
Ces derniers mois, d'ailleurs, sur toute la planète, on a constaté les effets du changement climatique, notamment à travers des records de chaleur cet été, mais aussi par des pluies diluviennes qui ont causé des inondations en Asie, en Europe de l'Est, ainsi qu'aux États-Unis. Est-ce que ces catastrophes sont liées à des phénomènes qui se produisent dans les océans ?
Alors, c'est pas mon métier, donc je voudrais pas dire de bêtises, mais effectivement, enfin, on l'a vu généralement, beaucoup de phénomènes de météo sont liés à des changements de courant. Au niveau des océans. On le voit même, on connaît maintenant la description de la naissance des ouragans et notamment ceux qui touchent les États-Unis. Effectivement, généralement, ça part des océans et ça part de courants qui vont être perturbés, parfois justement à cause de la fonte des glaces au niveau des pôles. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas ma spécialité, je ne voudrais pas commencer à dire des bêtises, mais justement, comme les océans couvrent, si je ne dis pas de bêtises, trois quarts de la planète, effectivement, ils jouent un rôle énorme sur notre météo.
Et du coup, on pourra en savoir plus sur ce sujet-là à la Fête de la Science, peut-être notamment au village à l'Abbaye de l'Épau ce week-end.
Au village des sciences à l'Abbaye de l'Épau, vous aurez plein de différentes notions abordées autour de l'océan, donc de la biodiversité à la pollution, à aussi tout simplement le cycle de l'eau. Alors nous, peut-être qu'on le connaît adulte, mais les enfants ne le connaissent pas tous. Et même, voilà, expliquer comment ça se passe et pourquoi justement l'océan, même si nous, au Mans, on se dit bah, l'océan, il est loin. En fait, non, il faut y faire attention.
Ça marche. Et alors, est-ce qu'il y a des événements absolument incontournables de cette 33e édition de la Fête de la Science, des événements particuliers que vous voudriez mettre en avant ?
Ce que je voudrais mettre en avant, c'est vraiment les villages des sciences qui sont ouverts à tous. Après, vous allez avoir... vous allez avoir aussi des conférences qui vont être organisées. Il y a le lycée Sud du Mans qui organise des conférences. Moi, ce qui m'intéresse le plus, peut-être, c'est vraiment tout ce qui est organisé auprès des scolaires. Vous avez aussi tout ce qui va être organisé dans les MJC par Effervescience, qui s'adosse à la Fête de la Science et organise des conférences, des petites présentations. En fait, on sait que le public scolaire, c'est le public peut-être le plus curieux. Et puis, l'avenir passe par les jeunes, en fait, quelque part. Donc, j'invite vraiment tous les scolaires à s'intéresser à ce qui va se passer.
Ouais, la Fête de la Science, ça vise aussi à susciter des vocations, peut-être, chez un jeune public ?
Nous, quelque part, en tant qu'université, alors on ne va pas dire qu'on fait du recrutement parce que c'est quand même loin, mais effectivement, on se dit montrer déjà ce qu'on fait nous, expliquer comment on travaille et peut-être effectivement donner envie. Déjà donner envie de faire des sciences, et encore une fois, je dis bien toutes les sciences, et encore une fois, donner envie d'être curieux et aussi de s'informer. On sait très bien qu'en ce moment, plus ça va, plus les informations circulent vite, mais on n'a pas forcément l'esprit critique pour juger ces informations et se dire que plus on va chercher des informations partout, plus on se cultive, plus on développe un esprit critique vis-à-vis de choses qui pourraient circuler sur les réseaux notamment.
Donc curiosité et esprit critique, c'est les deux maîtres mots de la fête de la science ?
Oui, c'est les deux maîtres mots de la science tout court, en fait, je crois.
Je vous remercie, Maud Barret. En parlant d'informations, est-ce que vous pouvez nous donner les infos pratiques pour se renseigner sur la fête de la science ?
Vous pouvez aller sur le site, il y a un site national de la fête de la science. Et vous pouvez aussi aller sur le site de MenSciences, qui est donc le coordinateur de la fête de la science en Sarthe. Vous aurez plus d'informations sur le programme. Il y a un programme en ligne et comme ça, vous aurez aussi les adresses de tous les villages des sciences et de tous les événements.
Eh bien, merci beaucoup, Maud Barret.
Merci à vous.
Merci d'être venu nous parler du programme de la fête de la science depuis le 4 et jusqu'au 14 octobre, partout en France et surtout près de chez vous. On se retrouve après une petite pause musicale. On sera avec la députée Renaissance Julie Delpech. A tout de suite, on écoute El Mal tiré de la BO du film Emilia Pérez de Jacques Audiard.
Miren al químico, químico que lo nombraron ministro de algo. El químico era cebo comando a matar a sus socios y familia a chingar. ¿Y qué hicieron con esos cadáveres? Ácido. Miren al juez Santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños, los narcos, los raptan a tiros. Los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, Santos reduce los juicios a falta de pruebas. Habla, esta gente habla, pero ahora lo van a pagar, a pagar, a pagar. Habla, esta gente habla, pero ahora lo van a pagar, lo van a pagar.
Ustedes me sacan ventaja. Todo el mundo los conoce, a mí nadie. O solo un poco, soy Emilia Pérez, una mujer mexicana, una mujer como las demás.
Miren al secretario de Educación, dizque pública especialista en las empresas fantasmas. Hoy sus contratos sí, sí son reales, pero las disque escuelas no se construyen ahora. Cuéntanos tuyo, ¿de dónde sacaste tu jet, tu alberga, tu hotel? Miren al gobernador, ¿quién votó por él? La gente o el cártel, ¿a qué compró? Ay, sí, uno a uno los votos de los campesinos. Paga, págale al cártel, bombón, ya están sentados en tu pinche trono. Habla, esta gente habla, pero ahora no.
Gracias a Dios, tengo a mi lado a una mujer excepcional, Anita Mora Castro. Ella es la inteligencia andando, la inteligencia andando.
Miren al cojo, no eres cojo de nacimiento. En tu próximo puto retraso de pago acabarás en la silla de ruedas, lo sabe bien el que perdió su mano. Sé muy puntual si eres corrupto. Miren al querido Gabriel Mendoza, ah, con su nueva mujer, su nueva esposa, muy joven, muy rubia, rubia.
Ser amado es una tragedia, pero ver sus restos es una condena. Es una condena. Es una condena.
Radio Alpa, l'alternative.
De retour sur notre antenne pour parler d'actualité politique. Bonjour Julie Delpech.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous. Vous êtes députée Renaissance de la première circonscription de la Sarthe. Vous étiez à la Commission des Affaires étrangères lors de votre premier mandat et entrez cette fois à la Commission des Affaires culturelles et de l'éducation. Alors après 2 mois de blocage suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, un nouveau gouvernement a été composé par la droite. Malgré la victoire relative du NFP qui a remporté le plus grand nombre de sièges, ce nouveau gouvernement est déjà jugé instable par une partie de l'opposition entre dissensions internes et menaces de motions de censure. Julie Delpech, on vous recevait déjà sur notre antenne peu avant la formation du gouvernement Barnier. Quel est donc votre regard sur ce gouvernement? Est-ce que vous le pensez capable de répondre à la situation de crise aussi bien économique que politique?
Alors déjà, merci de me recevoir. Donc sur votre question sur le gouvernement en place, moi je me suis exprimée sur le sujet. Ça n'aurait pas été mon choix premier. Moi, j'étais plutôt favorable à l'hypothèse de Bernard Cazeneuve. Malheureusement, le Parti Socialiste ayant annoncé qu'il le censurerait, ce n'était pas une option viable, puisqu'on a besoin de stabilité. Je pense qu'on est dans un moment avec une assemblée où il y a trois grands blocs qui se dégagent particuliers. C'est un moment assez historique. Et pour garantir cette stabilité, le président a consulté l'ensemble des partis. Malheureusement, la position du Parti Socialiste a fait tomber l'hypothèse Bernard Cazeneuve. Moi, je le regrette.
Pourquoi vous le regrettez autant? Pourquoi vous pensez que Bernard Cazeneuve aurait été...
Parce que je pense que quelqu'un comme Bernard Cazeneuve, c'est quelqu'un qui peut rassembler, qui répondait quand même aux envies de la gauche d'avoir un homme plutôt issu de la gauche. Je rappelle qu'il est issu du Parti Socialiste, mais qui est aussi capable de parler au centre et même à la droite de notre hémicycle, la droite modérée. Je pense que son passage au ministère de l'Intérieur a été plutôt bien perçu, donc je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu amener cette stabilité. Maintenant, c'est le choix qu'a fait le Parti Socialiste et c'est ainsi. Et désormais, c'est Michel Barnier. Moi, je l'ai dit, c'était pas mon premier choix. Je serai extrêmement vigilante. Maintenant, je pense qu'on doit être responsable et qu'on ne peut pas censurer un gouvernement par principe et par idéologie. On a un budget qui doit passer. Et moi, en tant que parlementaire, je me sentirais extrêmement responsable si le 1er janvier, on devait expliquer aux Français qu'il n'y a pas de budget et donc on ne peut plus payer nos fonctionnaires, etc. Donc voilà, on est dans un moment particulier et on va devoir tous prendre nos responsabilités.
Alors ce budget, ça a été une des grandes questions du discours de politique générale du mardi 1er octobre. Entre autres, Michel Barnier a aussi jugé opportun de rassurer sur le fait que ne seraient pas remis en cause certains acquis sociaux comme l'IVG ou le mariage pour tous. Il a également insisté sur la nécessité du respect de l'état de droit. Alors évidemment, certaines inquiétudes étaient nées, notamment concernant le profil ultra-conservateur de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Celui-ci qui a suscité une polémique avec ses propos ambigus sur l'état de droit qui ne serait ni intangible ni sacré, déclarait-il le dimanche 29 septembre dans le journal du dimanche. Julie Delpech, comment est-ce que vous réagissez à ces inquiétudes et est-ce qu'il vous semble qu'il faut parler d'un dérapage du ministre de l'Intérieur ou bien y voyez-vous une polémique superflue?
Alors moi déjà, je salue le fait que Michel Barnier nous ait rassuré sur le mariage pour tous ou sur l'IVG. Je regrette qu'il ait dû le faire. Ça veut dire qu'il a nommé des gens qui remettaient peut-être en cause ces sujets-là. Donc voilà, pour moi, ce sont des acquis, on ne peut pas revenir dessus. Donc voilà, il l'a dit, c'est très bien, mais c'est dommage d'avoir eu à le faire. Concernant Bruno Retailleau, évidemment, je suis de ceux qui ont condamné le fait qu'il ait tenu ses propos sur l'état de droit. Ce que je regrette, c'est que mon ancien collègue, désormais ministre de l'économie, Antoine Armand, ait été recadré publiquement par le Premier ministre quand il a dit que pour lui le RN n'était pas un parti de l'arc républicain, c'est un fait, mais que pour Monsieur Retailleau c'était un petit peu plus modéré comme recadrage. Donc avec mon groupe Ensemble pour la République, on s'est exprimé publiquement sur le fait que c'était pas acceptable d'appeler Marine Le Pen pour s'excuser du propos de son ministre et qu'on aurait aimé que ce soit plus fermement que le Premier ministre soit un peu plus ferme sur ses propos sur l'état de droit qui, pour moi, est intangible.
Alors justement, le RN, en tout cas, lui, n'a pas caché son assentiment vis-à-vis des propos de Bruno Retailleau. Laurent Jacobelli, par exemple, qui est porte-parole du RN, a souligné sur France Info que le ministre de l'Intérieur reprenait le programme du RN à la virgule près. Marion Maréchal elle-même a salué ses propos réjouissants et affirmé qu'il était difficile d'être en désaccord avec les mots de Bruno Retailleau. Alors Marion Maréchal qui ne fait pas partie du RN, mais qui symbolise aussi l'extrême droite française. Est-ce que cette joie affichée de l'extrême droite face aux propos du ministre vous met mal à l'aise, Julie Delpech?
Alors moi, je pense que c'est une joie feinte. Je pense que le RN espérait gagner ses élections législatives. Cela n'a pas été le cas. Et que le RN n'est aujourd'hui pas en capacité de gouverner. On a pu le voir sur les élections législatives et les candidats qu'ils ont pu présenter. Évidemment que Bruno Retailleau, qui est d'une droite très conservatrice, a certaines positions qui peuvent leur parler, mais je pense que c'est loin d'être 100% et que c'est plutôt bon pour eux d'aller sur les plateaux et de dire qu'ils ont l'impression de gouverner un petit peu. Maintenant, je pense que dans les faits, on va voir dans quelques mois, mais peut-être que le RN sera de ceux qui censurent.
Dans les faits, tout de même, Michel Barnier, il semble s'inscrire dans une ligne de politique migratoire qui est beaucoup plus rigide. Il déclare en effet vouloir mieux exécuter les OQTF, les obligations de quitter le territoire. Donc il y a quand même, vous dites que le RN n'est pas au pouvoir, mais il y a quand même de quoi alimenter les analyses qui placent le gouvernement Barnier sous l'épée de Damoclès que constitue le RN, dont la force numérique à l'Assemblée, ajoutée à celle du NFP, serait suffisante pour accomplir une motion de censure. Est-ce qu'il ne vous semble pas aujourd'hui quand même que le RN est au pouvoir par cette pression qu'il exerce sur le gouvernement ?
Non, moi je trouve pas, parce que les gens oublient aussi qu'au sein de mon groupe, on peut tout à fait censurer, il n'y a pas besoin que le RN le fasse, on peut nous aussi très bien le faire si on estime que certaines lignes rouges sont franchies, et moi c'est pas quelque chose que je m'interdirais si j'estime que mes valeurs ne sont plus là. Sur la politique migratoire, Michel Barnier a effectivement eu un discours assez dur sur l'immigration illégale, en disant quand même qu'il fallait mener une politique humaniste. Alors moi, cette ligne dure, c'est pas ma ligne. J'ai pas voté la loi immigration portée par mon propre gouvernement. Je me suis abstenue. Et c'est un débat qui divise même au sein de mon groupe. Je pense que Michel Barnier est quelqu'un de plus modéré sur ce sujet-là que Bruno Retailleau. Et donc j'espère qu'il saura imposer sa ligne à son ministre de l'Intérieur.
En tout cas, dans une assemblée en trois blocs, il va être nécessaire d'exercer des coalitions, des ententes, notamment dans une situation d'urgence telle que nous la connaissons, puisque le budget 2025, vous en parliez tout à l'heure, doit impérativement être voté et publié avant la fin de l'année, au risque de pétrifier le fonctionnement des services publics. Alors, la coalition Ensemble pour la République va donc devoir pencher d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique, entre une entente avec le nouveau Front populaire ou bien avec le Rassemblement national. Quelle vous semble être la meilleure option ?
Alors, il n'y aura jamais d'entente, je le dis très clairement, de mon groupe avec le Rassemblement National. Ça
Alors,
n'arrivera
de
pas.
De votre groupe tout entier ou de vous seulement ?
Non, c'est... de mon groupe, dans Ensemble pour la République, il n'y aura pas d'entente avec le Rassemblement National. C'est quelque chose qui est totalement exclu et on l'a dit publiquement et on le redira autant qu'il faut. Il ne faut pas oublier que le Bloc central, ce n'est pas que mon groupe. Il y a aussi le Modem, il y a Horizon et il y a aussi une grande partie des LR. Donc pour faire passer des choses à l'Assemblée, on n'a pas besoin du Rassemblement national si on souhaite que des choses soient votées.
Mais justement, ce bloc central, comme vous dites, est-ce qu'il est toujours vraiment au centre ? Parce qu'il y a quand même une...
Ah oui, je vous confirme qu'il est au centre. Si vous écoutez les derniers propos, notamment de Gabriel Attal, on explique bien que la ligne de Michel Barnier, s'il y a des choses sur lesquelles on peut s'entendre, c'est quand même pas 100% des propos qu'il peut tenir. Après, sur le budget, c'est très simple. On est dans une composition d'assemblée qui est très particulière et on saura s'entendre, que ce soit avec la droite, hors extrême droite, ou avec la gauche hors extrême gauche, on saura s'entendre sur certains sujets pour faire avancer les choses. Mais comme c'est le cas déjà, c'était le cas il y a 2 ans, sur certaines lois, on a voté presque 40 textes transpartisans. Donc c'est des choses qu'on sait faire. Même si c'est peu relayé par les médias, on est quand même capable de s'entendre entre nous pour faire avancer le pays.
Ok. Donc sur pas d'entente avec le Rassemblement National du côté de votre groupe.
Ah non, clairement, il n'y aura pas d'entente avec le Rassemblement National.
Bon, est-ce que c'est seulement possible, au moins, une entente entre deux des trois blocs ?
Mais vous savez, on cristallise beaucoup sur les trois blocs, mais moi, pour être depuis 2 ans en majorité relative, donc on est obligé depuis 2 ans de travailler avec les autres forces politiques, il y a aussi ce qu'on voit dans l'hémicycle et ce qui se passe en commission. Et le travail en commission se passe bien. On est capable de s'entendre entre partis. Enfin, moi, j'ai porté des choses avec des collègues socialistes, avec des collègues écologistes. J'ai porté des choses avec des collègues républicains modérés. On sait, en fonction des sujets, se retrouver et porter des choses ensemble. Parce que même si on fait de la politique, on est quand même tous là pour... Une raison, c'est l'intérêt du pays, l'intérêt des Français. Et donc, je pense qu'on a quand même, dans la grande majorité des députés, je ne vais pas dire 100%, mais cet attachement à l'intérêt général qui passe avant tout.
Mais je vous entends ne pas citer notamment la France insoumise dans les partis avec lesquels une entente est possible.
Mais ils ne le souhaitent pas. On a essayé.
Vous avez essayé?
Ah bah moi, sur les précédents mandats, j'ai notamment à la délégation aux droits des femmes, où j'étais rapporteur pour avis sur le projet de loi de finances, j'ai évidemment, sur l'ensemble de mes auditions, convié l'ensemble des partis représentés à la DDF aux auditions. La France Insoumise y a participé. La France Insoumise a indiqué que mon rapport était bon et allait dans le bon sens, mais par principe ne l'a pas voté. Moi, j'estime pas qu'on peut travailler quand on ne vote pas par principe. Voilà, moi, ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. C'est si on est d'accord et qu'on se retrouve, on vote, mais on ne vote pas par principe parce que ça vient de la majorité. Enfin, je veux dire, je pense pas être l'extrême droite. Donc, voilà, moi, ces positions-là, purement de principe, forcément que ça crée un blocage et que c'est difficile de travailler avec des partis qui, par principe, s'opposent.
C'est tout de même, par principe, si j'ai cru comprendre, que vous vous opposiez au Rassemblement National parallèlement.
Ah non, moi, le Rassemblement National, c'est des valeurs. Enfin, je veux dire, moi, le Rassemblement National, ce qu'il propose, je ne suis pas d'accord avec, donc je ne voterai pas avec le Rassemblement National.
On peut discuter sur la distinction entre principe et valeur, mais du coup, c'est le même fonctionnement.
Non, mais quand un parti me dit « on est d'accord avec votre rapport », je dis bien, on est d'accord, mais par principe, on ne le vote pas.
Oui.
Moi, vous ne m'entendrez pas dire, je suis d'accord avec le Rassemblement National, mais par principe, je ne vote pas. Je ne suis pas d'accord avec le Rassemblement National. Par contre, si je suis d'accord avec le PS, si je suis d'accord avec un autre parti, je suis capable de le voter. Moi, j'ai voté des amendements dans l'hémicycle socialiste, et pourtant, c'est pas mon groupe, c'est pas ma famille politique. Ils sont dans l'opposition. Je pense qu'on a aussi ce côté... Et peut-être que cette nouvelle configuration de l'Assemblée nationale va nous permettre de faire plus ça, mais d'arrêter les oppositions de principe et de partir sur des accords de principe. On peut se dire, bah, sur ce sujet-là, on est d'accord. C'est pas pour ça qu'on est de la même famille politique et qu'on va se tenir la main et tout faire ensemble. Mais sur ce point-là, on est d'accord, alors on y va. Et ça, il faut qu'on... On n'a pas cette culture, en fait, en France, du compromis et cette culture... on n'est pas une démocratie parlementaire, on ne sait pas faire ça, mais il faut qu'on apprenne. Là, on ne va plus avoir le choix.
Mais effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas du tout cette culture-là du compromis, au point qu'on a pu parler de cette nouvelle Assemblée comme d'une impasse de la Ve République et qu'il faudra peut-être envisager une nouvelle constitution comme le propose, par exemple, la France Insoumise. Vous pensez que c'est pas une bonne solution?
Moi, je suis peut-être quelqu'un de très optimiste, mais je pense que cette nouvelle composition de l'Assemblée nous oblige à travailler différemment. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, pour la grande majorité des députés, on n'a pas le souhait que le pays soit bloqué et qu'on va être en capacité, texte par texte, de travailler les uns avec les autres sur certains points. Voilà, Guillaume Garot, député socialiste, vient de faire un groupe de travail sur la désertification médicale. Il y a convié l'ensemble des partis de l'arc républicain. Tout le monde penche ensemble sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que la désertification médicale, que vous soyez électeur de droite ou de gauche, vous êtes touché de la même manière. Et je pense que moi, je crois beaucoup que cette composition d'Assemblée va juste nous obliger à travailler différemment et qu'il y a assez de députés conscients de ça et qui ont envie que le pays avance pour que ça fonctionne.
Alors, le refus d'Emmanuel Macron de nommer Lucie Castet à Matignon, donc la gauche qui a invoqué le déni de démocratie, puis la nomination de Michel Barnier qui s'accompagne de la constitution d'un gouvernement où dominent les personnalités de droite, a confirmé, semble-t-il, que le camp présidentiel, ou en tout cas peut-être seulement le président de la République, s'engage dans un virage très à droite. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ou que vous remettez en cause? Et comment vous positionnez-vous par rapport à cette trajectoire politique?
Alors moi, je l'ai toujours dit, le virage à droite, et c'est pour ça que sur certains textes, je n'ai pas voté avec mon groupe. Moi, je ne suis pas issue de la droite, donc ce n'est pas des choses qui me parlent. Sur Lucie Castet, Quand on propose un nom, déjà on le propose, hein, je rappelle qu'on peut proposer, mais que ça reste le président qui décide de qui nomme à Matignon. Quand on propose un nom et que quelqu'un qui représente 190 députés dit « ça sera notre programme, rien que notre programme », c'est sûr qu'elle allait être censurée dans les deux semaines. Enfin, je veux dire, moi je regrette que le NFP n'ait pas non plus fait cet examen de conscience de se dire « on n'a que 190 députés, c'est très loin des 289 de la majorité absolue, donc on va être obligé de composer avec tout le monde. Et quand au soir des législatives, on dit notre programme, rien que notre programme, avec 190 députés, ça passe pas. C'est impossible.
Est-ce que c'était à Emmanuel Macron de prendre cette décision-là?
Dans notre constitution, c'est le président qui nomme le Premier ministre, oui, c'est à lui de décider, je vous confirme. Après, je le redis, il a proposé une personnalité de gauche qui a été refusée par son propre parti, ce que moi je trouve un peu aberrant.
Mais Bernard Cazeneuve ne faisait pas partie du NFP, il s'y était
Non mais c'est un socialiste, c'est quelqu'un de gauche. Enfin, moi on peut pas me dire que Bernard Cazeneuve est de droite, parce que là je vais perdre tous mes repères sinon.
Alors comment ressentez-vous en tout cas de la part des citoyens sur le terrain, Julie Delpech, est-ce que vous percevez une colère par rapport à un vote qui n'aurait pas été suffisamment écouté?
Alors pour être honnête, on m'en parle pas du tout. On D'accord. est rassuré qu'il y a un premier ministre. Les gens, ça l'attendaient. Alors évidemment que les électeurs de gauche, et je suis la première à m'être exprimée dessus, ne sont pas satisfaits de la structuration du gouvernement. Maintenant, moi, on me dit, enfin, j'ai vraiment sur le terrain, j'ai jamais eu le terme déni de démocratie, sauf à rencontrer des gens très militants dans des partis. Mais sur les citoyens, l'ensemble des citoyens, c'est pas quelque chose que j'entends.
Il rassure les gens, Michel Barnier?
Je pense qu'il rassure les gens parce que il a une manière de parler, je pense, qui est très calme et apaisée. Donc voilà, je pense pas qu'il rassure les gens forcément sur son discours. Si on écoute le fond, ça peut pas parler à tout le monde, c'est pas possible. Par contre, je pense que dans sa posture, il est en capacité de rassurer, mais c'est une image.
Alors Julie Delpech, vous êtes désormais membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Quels sont selon vous les principaux chantiers de cette commission aujourd'hui?
Alors il y a beaucoup de chantiers dans cette commission. Là, en ce moment, on fait pas mal d'auditions, notamment sur les Jeux Olympiques. Il se passe pas mal d'auditions sur ce sujet-là. On a aussi un rapport sur notamment les violences dans le cinéma, suite au MeToo cinéma et notamment à l'audition de Judith Godrèche à l'Assemblée. Donc, on a un gros morceau là-dessus. Et moi, sur cette commission-là, j'ai souhaité l'intégrer pour pouvoir travailler sur trois sujets principaux qui sont les écoles en ruralité. Je pense qu'on a un gros travail à faire sur un état des lieux de l'école en ruralité. On a beaucoup de fermetures de classes chaque année. Il faut qu'on puisse avoir un rapport là-dessus. Il y a le sujet du harcèlement scolaire sur lequel ça fait un an que je travaille et que je vais pouvoir poursuivre au sein de cette commission. Et puis j'ai un autre sujet aussi sur la présence d'infirmières en milieu scolaire. Puisque je pense que ça peut aussi contribuer, notamment sur des cas de harcèlement et de santé mentale, à pouvoir détecter des problématiques de manière un peu plus précoce et éviter certains drames.
Alors, parmi les différentes mesures évoquées par le Premier ministre pour combler le déficit public, Michel Barnier a parlé d'une baisse des dépenses publiques. On pourrait donc supposer que l'école en fait partie. Et dans le même temps, il a placé les services publics, école et santé en tête, dans ses 5 chantiers prioritaires. Alors, comment est-ce que vous comprenez cet apparent paradoxe? Parce que vous l'avez souligné vous-même, l'école, elle est déjà en difficulté, en fait.
Alors moi, je n'interprète pas ce qu'il a dit. Il vient demain à notre réunion de groupe à l'Assemblée nationale, donc ça sera pour nous le moment de lui demander des clarifications sur ces points-là. Moi, je ne sais pas ce qu'il a en tête, donc ça va être notre rôle demain de l'interroger sur ces points-là. Pour nous, c'est très clair, on ne touche pas à l'éducation ni à la santé. C'est des secteurs déjà en difficulté et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des économies sur ces deux points-là. Donc ça sera des questions qu'on lui posera demain lors de notre réunion de groupe pour qu'il puisse justement nous expliciter un peu ce qu'il a voulu dire par là.
Alors si Michel Barnier avait d'abord annoncé que les économies sur les dépenses publiques rempliraient 2/3 des efforts de réduction du déficit avec un objectif de 5% d'ici 2027, contre 1/3 concernant les hausses d'impôts, il a ensuite inversé cette proportion. Et Gabriel Attal et Gérald Darmanin, en tant que députés Ensemble pour la République, ils se sont prononcés en désaccord à cette vision et prônent plutôt un effort drastique sur les dépenses publiques. Alors, les services publics, sont pourtant déjà à bout de souffle, on vient d'en parler. Comment est-ce que vous vous positionnez, Julie Delpech, par rapport à cette conception de l'effort national prônée par deux figures de proue de votre groupe politique?
C'est des discussions qu'on a entre nous très, très ouvertement. Moi, je ne suis pas fermée à l'idée d'augmentation des impôts. Maintenant, je veux savoir de quelle manière et je veux être sûre que ça ne touche pas. Il y a beaucoup qui parlaient d'une augmentation de la TVA. Moi, je trouve que c'est un impôt très injuste puisque tout le monde le paye. Donc moi, voilà, s'il doit y avoir des augmentations d'impôts, je vais, dans le projet de loi de finances, être très vigilante à comment elles sont orientées. Moi, je pense que, et même sur les entreprises, il faut qu'on fasse attention. On ne peut pas se permettre à ce que des entreprises licencient ou recrutent moins. Ce n'est pas ce qu'on a porté depuis 7 ans. On a plutôt porté une politique axée sur le travail. D'ailleurs, on a le taux de chômage le plus bas depuis ces 15 ou 20 dernières années. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à préserver ça. Mais voilà, moi, je ne suis pas quelqu'un de fermé aux hausses d'impôts. Mais maintenant, je vais être très vigilante à comment sur qui, combien de temps.
C'est-à-dire, parce que qu'est-ce que vous proposeriez concrètement, en fait?
Moi, je ne suis pas contre la taxation exceptionnelle sur les très grandes entreprises, par exemple, comme ça a pu être proposé. Maintenant, j'ai trouvé que dans sa déclaration de politique générale, c'était assez flou sur les impôts. Ça n'a pas vraiment été détaillé. Alors, peut-être
qu'il il l'a clarifié depuis.
Moi, j'ai encore des questions, donc je lui poserai demain. Après, sur les services publics, moi, il y a plein de... Enfin, sans réduire drastiquement, par exemple, Gérald Darmanin disait que déjà, on puisse appliquer les 35 heures dans la fonction publique, ce qu'aujourd'hui, on sait, c'est factuel, c'est chiffré, que c'est pas appliqué. Aujourd'hui, les 35 heures, ça a un coût. Donc, moi, des mesures comme ça, je ne suis pas contre, loin de là. Mais sur les impôts, je serais très vigilante. Voilà, on sait que des fois, le loup se cache dans les détails, donc il faudra qu'on soit très attentif à ce qui est proposé dans le projet de loi de finances sur ce sujet-là.
Alors, dernière question, Emmanuel Macron s'est fait relativement discret ces derniers temps sur les médias français. On l'a tout de même entendu sur France Inter samedi 5 octobre, où il s'est prononcé favorable à l'arrêt de livraison d'armes en Israël. Alors, c'est une déclaration forte, mais qui laisse cependant de côté les enjeux de l'intérieur. Julie Delpech, est-ce que vous pensez que ça y est, Emmanuel Macron a laissé la main au Premier ministre Michel Barnier, ce qu'il aurait plié dans ce rapport de force?
Non, je pense pas. Moi, je l'ai vu il y a quelques semaines. Et pour en avoir parlé avec lui, je pense que entre la déclaration de politique générale et le début du budget, c'est son rôle de se mettre en retrait, de laisser le Premier ministre dérouler sa feuille de route. Il est aussi en capacité de dire quand il est en désaccord. Maintenant, il a aussi conscience que notre parti, son parti, n'a pas gagné les élections et que donc il laisse les choses se faire. De toute façon, la politique extérieure, c'est toujours quelque chose qui revient au président de la République, donc il est dans son rôle là-dessus. Et sur l'intérieur, je pense qu'il saura s'exprimer quand besoin s'en fera sentir. Il a des échanges quotidiens avec le Premier ministre, mais voilà, c'est n'étant plus de la même famille politique, c'est deux choses maintenant peut-être un peu plus éloignées qu'avant, donc c'est sûr qu'on risque de moins l'entendre un peu sur ces sujets-là.
Merci Julie Delpech d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
Vous êtes députée Renaissance de la première circonscription de la Sarthe. Pour terminer cette émission, je vous propose un reportage sur la grande dictée de Faites-Lire pour faire un retour de cet événement qui a lieu chaque année lors du salon du livre Manceau. Un reportage par Robin Hulin et moi-même. Le jeudi 3 octobre avait lieu la grande dictée dans la salle des concerts de la rue du Port, un événement ludique, gratuit et ouvert à tous, où chacun pouvait venir tester ses facultés en orthographe, sans la pression de l'évaluation évidemment. Le texte est une production de Julien Soulier, auteur de livres sur la langue française, et donc de dictées auxquelles il se prête en professeur sympathique. Robin Hulin et moi-même nous sommes prêtés au jeu. Nous avons pu au passage interroger Julien Soulier sur cet exercice.
Julien Soulier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors on est ici dans le cadre de Faites-Lire, on est à la salle des concerts et il est temps, comme tous les ans maintenant depuis plusieurs éditions, de participer à la grande dictée. On va parler en détail de comment la sélection se fait, ce qu'il y a d'intéressant, etc. La sélection du texte, le public, comment est-ce que ça se passe. D'abord, peut-être pour les gens qui nous écoutent, expliquer quel est l'enjeu d'organiser une grande dictée ouverte au public et gratuite.
Alors l'enjeu, j'aime bien dire qu'il n'y a pas d'autre enjeu que le jeu, donc les gens viennent pour s'amuser avec la langue française. C'est vrai que souvent la dictée, on voit ça un peu comme une corvée, voire comme un traumatisme. Pour certains, ça reste un traumatisme. Et là, l'idée, c'est de dédramatiser un petit peu tout ça, de rendre ça ludique. Les gens s'amusent avec la langue française, ils font quelques fautes éventuellement, ils apprennent un ou deux mots, ils voient ou ils revoient une règle de grammaire qu'ils avaient apprise et qu'ils ont oubliée. Donc vraiment, l'idée, c'est de s'amuser au maximum avec la langue française sans se prendre trop la tête.
Et alors concrètement, comment va se dérouler le jeu? Est-ce qu'il y aura une correction à la fin?
Alors d'abord, on fait la dictée, il y a trois lectures, une première lecture, ensuite la dictée et une relecture. Et ensuite, je projette le texte, j'explique les principales difficultés. Donc là, souvent, quand ils découvrent certaines choses, donc ça, c'est intéressant de voir un peu les réactions presque physiques du public. Et puis ensuite, je leur dis, on demande qui a fait tant de fautes. Voilà, il n'y a pas de classement. Mais en fait, ça, je le redis, ça reste très ludique, très sympathique et les gens en général sont assez contents.
La sélection du texte, parlons un peu de ce qu'on va pouvoir découvrir ce soir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire?
Alors, est-ce que je peux spoiler, comme on dit aujourd'hui? En fait, donc c'est un texte que j'ai écrit exprès pour l'occasion, donc c'est un texte inédit. Et comme nous avons le soutien cette année encore de l'Académie française, j'ai fait un petit hommage ou un petit clin d'œil à l'Académie française.
Alors, c'est vous qui avez écrit le texte. Quelles difficultés est-ce que vous recherchez quand vous écrivez? Est-ce qu'il y a des règles particulières que vous essayez de mettre en avant?
Oui, alors j'essaie d'abord d'écrire un texte qui ait du sens, parce qu'effectivement une dictée c'est pas juste un empilement de mots compliqués, c'est un texte qui a du sens, donc j'essaie de raconter une petite histoire, que ça fasse pas trop accumulation de mots inconnus, d'ailleurs j'ai mis très peu de mots compliqués, et après j'essaie de doser entre effectivement un peu de vocabulaire, un peu d'orthographe lexicale, donc des doubles consonnes, des lettres muettes, un peu d'accords grammaticaux, le pluriel d'un nom par exemple, et puis évidemment il y a certaines règles qu'on ne peut pas éviter, comme qui sont un peu les rênes de la dictée, donc l'accord du participe passé par exemple.
Il y a un challenge aussi d'essayer de s'adresser à différentes générations, différents âges, les jeunes, les personnes un peu plus âgées, etc.
Oui, c'est vrai. Alors, on essaye. C'est vrai que je ne vous cache pas que les adolescents, on a du mal à les faire venir. Souvent, ils ont d'autres préoccupations et d'autres centres d'intérêt. Mais ce matin, par exemple, et cet après-midi, on avait organisé aussi deux dictées à destination des jeunes. Donc, il y avait une dictée pour les primaires, donc CM2. Et ensuite, on a fait une dictée pour les collégiens. Et donc là, ce sont les professeurs qui les avaient inscrits. Mais ça s'est bien passé. On a bien rigolé. Je pense qu'ils se sont, disons, amusés autant que des ados peuvent s'amuser avec une dictée.
Parce que l'enjeu finalement c'est de sensibiliser entre guillemets, d'intéresser, de montrer qu'on peut apprendre, redécouvrir l'orthographe, la dictée en s'amusant de manière ludique. Parce que vous avez parlé un peu de traumatisme en début d'interview, c'est pas faux.
Oui, c'est ça. Moi, j'anime des formations sur langue française auprès de personnes un peu de tous âges. Et ce qui ressort le plus souvent, c'est que les gens en fait ont une espèce alors de traumatisme ou disons un passif avec l'orthographe, avec les cours de grammaire. Et donc là, l'idée, c'est de le faire un petit peu en douceur, de façon un petit peu amusante, de façon un petit peu ludique, en plaisantant, avec un texte, si possible, un petit peu humoristique. Et donc de leur montrer qu'on peut apprendre en s'amusant.
Alors, il paraît que le texte de dictée le plus difficile de la langue française, c'est un texte écrit par le poète Mallarmé. Est-ce que vous y êtes déjà confronté?
Alors, je ne sais pas si c'est Mallarmé ou alors peut-être Mérimée, non? C'est peut-être la dictée de Mérimée.
Moi, j'avais retenu Mallarmé, mais peut-être que c'est une erreur.
C'est la dictée de Mérimée en fait qu'il avait composée pour l'empereur Napoléon III et sa cour en fait. Alors effectivement, il paraît que c'est le texte le plus difficile, mais depuis les dictées de Bernard Pivot, on a fait beaucoup plus difficile que ça. Mais c'est vrai que ça reste traditionnellement, la première dictée difficile, ludique de l'histoire des dictées amusantes.
Et comment cette difficulté peut augmenter? Enfin, sur quoi on joue pour augmenter toujours la difficulté? Parce que les règles de la langue française, de la grammaire, sensiblement, elles restent les mêmes. Alors, il y a toujours des évolutions, mais en général, l'évolution va même plutôt vers la simplification, en fait. Donc, comment est-ce qu'on augmente toujours la difficulté des dictées?
Alors, on arrive toujours à trouver quand même une règle. Alors, les règles de grammaire ne sont pas illimitées, mais on arrive quand même toujours à trouver dans le fin fond d'une grammaire une règle un tout petit peu plus compliquée que les autres. Donc ça, on y arrive. On peut aussi, moi j'avoue que j'essaie d'éviter parce que je vous dis c'est pas trop du jeu. On peut toujours accumuler les mots compliqués que personne ne connaît, des mots scientifiques, des mots de la médecine, des noms de plantes, des noms de maladies, voilà. Mais ça a un intérêt assez limité. J'essaie moi de les doser à dose homéopathique. Et puis après, moi ce que j'aime bien faire, c'est ce que faisait Bernard Pivot, c'est ce qu'on appelle les pièges de sens. C'est-à-dire on joue sur les mots. Donc on glisse un mot et finalement c'est son homonyme qui doit être utilisé. Et donc là moi j'aime bien ça parce que si vous comprenez bien le texte, normalement vous devez choisir le bon mot. Voilà, et donc ça montre ce genre de piège de sens, ça montre qu'en fait, une dictée, c'est un texte qui a du sens. Et si vous comprenez bien le sens du texte, normalement, quand vous avez une hésitation sur un homonyme, eh bien, vous savez ou vous pouvez l'écrire correctement. Donc là, j'en ai glissé 2-3 dans la dictée de ce soir, et on verra si ça fait mouche.
On observe qu'en France, ça plaît de plus en plus, hein, ces événements de grandes dictées, ouvertes au public, à toutes les générations. Il y en a même une pendant les Jeux Olympiques cet été. Est-ce que ça peut refléter qu'en parallèle, peut-être qu'on a eu une déformation de ce qu'elle a dicté par un aspect peut-être un peu trop compétitif à l'école et qu'on a oublié l'essence même et qu'on voit qu'une fois qu'on est sorti de l'école, les gens aiment ça?
Oui, c'est tout à fait vrai parce que, en fait, le problème de la dictée à l'école, c'est que c'est un exercice normatif, sommatif, c'est-à-dire avec une évaluation. Et quand les élèves ont 0 une fois, 2 fois, 3 fois, bien à un moment donné, ils sont découragés, ils abandonnent. Donc, c'est vrai que là, le faire de façon conviviale, sans la sanction et la pression de la note, eh bien, ça introduit la dictée dans un autre univers qui devient celui du jeu, au même titre qu'on peut faire des mots croisés, des échecs ou du Scrabble.
Alors maintenant, Julien Soulier, si on peut se pencher un peu sur votre actualité, est-ce que vous avez d'autres projets? Ça peut être des projets écrits, des projets d'autres dictées, d'autres manières pour faire vivre la langue française, pour sensibiliser à l'orthographe, pour nous amuser de nous faire découvrir ça de manière ludique?
Alors pour ne rien vous cacher, j'ai un long tunnel de dictées dans les salons du livre depuis début septembre jusqu'en novembre. J'ai une douzaine à écrire et à animer. Donc il y a ça. Et puis à côté, effectivement, j'écris des livres sur la langue française. Alors au début, je travaillais plutôt sur des livres qui expliquent les règles. Et maintenant, je m'oriente plutôt sur des livres un petit peu à la fois ludiques, et culturelle. Donc sur l'histoire de la langue, j'ai par exemple coécrit avec un dessinateur une bande dessinée sur l'histoire de la langue française, sur un mode un peu humoristique. Donc on l'a fait sérieusement. Moi j'aime bien l'idée de faire sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Voilà, donc c'est vraiment ça. Moi j'essaie de faire de la langue française sérieusement, mais sans me prendre trop au sérieux.
Et alors vous écrivez toujours vos dictées, pourquoi vous ne choisissez pas parfois des textes du répertoire littéraire français ?
Bah, parce que j'aime bien introduire un peu d'humour. Alors c'est vrai que bon, je ne suis pas un auteur, hein, je n'ai pas la prétention d'être Proust ou Mallarmé ou Balzac, mais c'est vrai que ça me permet de doser les difficultés, d'insérer des difficultés que je souhaite insérer. Donc il y a un travail comme ça, un petit peu de dosage, et dire il faut peser chaque paragraphe pour voir si on a mis suffisamment de grammaire, d'orthographe. Donc ça me permet, en écrivant un texte inédit, de pouvoir glisser ce que j'ai envie de glisser, et de pouvoir dire ce que j'ai envie de dire, et surtout de glisser un petit peu d'humour. Puis il y a un plaisir aussi d'écrire le texte quand même.
Eh bien, merci beaucoup Julien Soulier d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous. Et venez à la dictée, bien sûr.
Eh bien là, on va se préparer. On est là pour ça. Merci encore.
Mesdames et messieurs, Julien Soulier.
Aujourd'hui, Julien.
Voilà. Dernière chose, nous ne sommes pas peu fiers, je dois vous le dire, à Faites-Lire et au Mans, dans votre jolie ville du Mans. Nous avons pour la deuxième année consécutive le soutien de l'Académie française pour cette dictée, ce qui est assez exceptionnel quand on connaît cette vénérable maison, et surtout parce que c'est la première fois que l'Académie française accepte donc de donner son soutien, c'est-à-dire cette imprimature, si je puis dire, vous voyez, pour ce que la ville du Mans fait pour les mots, les lettres et les livres en général, et notamment pour les mots avec la dictée.
Alors, comment est-ce que ça va se passer ? Ça va bien se passer déjà, donc rassurez-vous. Je vais vous lire une première fois la dictée, dans son intégralité, pour que vous puissiez un peu voir de quoi il est question. Ensuite, je vous ferai la dictée à proprement parler en dictant la ponctuation. D'accord. Si vous trouvez que je vais trop vite, n'hésitez pas à lever la main, je ralentis, je répète, éventuellement j'épelle un mot, non, je vais éviter. Mais en tout cas, voilà, je répéterai autant de fois que nécessaire si jamais vous êtes un petit peu en retard, donc n'hésitez pas, on est entre nous, c'est un jeu, hein. Il n'y a pas de compétition. Et puis ensuite, donc, je vous laisserai quelques minutes, enfin je relirai le texte une dernière fois. Je vous laisserai quelques minutes pour que vous puissiez rajouter une faute ou deux par-ci par-là en vous relisant, parce qu'en général, c'est ce qu'on fait. Hein. À force de réfléchir comme ça, on dit « Oui, mais là, si, ah, mais oui, mais si, mais non, mais là, mais oui. » Et puis finalement, on fait le mauvais choix. C'est-à-dire, vous savez qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a que des mauvais choix. Hein. Alors, allons-y, le titre. Une dictée très académique. Une dictée très académique. Ça commence mal, si déjà au mot dictée, il y a un problème. On est mal parti. Hein. Une dictée très académique. Quant à moi, virgule, je songeais enfant à d'autres hommes verts, deux points. J'aspirais à rejoindre la réopage des 40, virgule, ces académiciens sur leurs 31, dans leurs beaux habits verts et or, tout neufs, point.
Bonjour, alors vous avez participé à la dictée du 3 octobre au soir dans le cadre de Faites Lire. Comment ça s'est passé pour vous ?
On va dire que j'ai bien aimé moi l'ambiance, c'était une découverte. J'avais vu passer l'info l'année dernière mais j'avais pas pu venir. Et puis là, en fait, j'ai vu l'info dans la journée et puis bon là je suis pressé parce que j'ai un truc après, je vais être un petit peu en retard, mais ça me tenait à cœur de venir pour découvrir l'ambiance et voilà, moi j'aime bien le français, j'étais plutôt doué quand j'étais plus jeune, voilà, donc je venais me tester aussi sur un truc un peu plus académique justement et voir ce que ça donnait, voilà, si j'avais des petites
il y a des règles que vous avez découvertes là?
Que j'ai découvertes, des petites subtilités que j'avais pas, des fois sur est-ce qu'on met une majuscule, est-ce qu'on n'en met pas. Après, il y avait des règles que j'avais, mais du coup, dans le feu de l'action, on se dit est-ce que vraiment, est-ce que c'est vraiment bon. Donc, en fait, il y a des choses où on devrait se faire plus confiance, je pense. Voilà.
Il y a plusieurs choses sur lesquelles tous sont un peu butés, le rho notamment, qui était la lettre grecque, le mot graphoré aussi, ça a été pour vous ça ?
Non, les deux, j'ai fait une faute. Le rho, je ne l'avais pas du tout, j'ai fait un peu comme tout le monde, le rho, voilà, quand on rote, quoi. Donc ça, je ne l'avais pas, et puis graphoré, je ne l'avais pas non plus.
Et globalement, vous êtes satisfait de votre score ?
Moi, j'ai compté rapidement, il faut que je recompte, voir si j'en ai pas raté une ou deux, mais je suis un peu au-dessus de 30 fautes, donc j'ai quand même une marge de progression.
Ça marche, merci. Bonne soirée.
Merci à vous.
C'est bien de le voir comme ça, une marge de progression.
Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez trouvé ça difficile?
Légèrement moins difficile que l'année dernière, pour autant avec autant d'esprit que l'année dernière, donc effectivement, les fautes les plus... imprévisible était là, en fait.
Okay, ça va. Il y a des choses que vous avez découvertes, des règles particulières, peut-être?
L'euro grec, effectivement, il fallait avoir fait un peu de grec ancien pour s'y retrouver, mais voilà.
Il y avait pas mal de pièges dans lesquels tout le monde est tombé. Graphoré, notamment, vous connaissiez ce mot-là?
Non, effectivement. Ah oui. Moi, ce mot-là, je l'avais tout bon.
Vous devez être une des rares à l'avoir eu. Okay.
J'avoue que je l'écris dans la marge de plusieurs façons, et puis je me suis souvenu que la dysménorrhée, ça concernait bien les femmes, et ce mot-là m'a fait me rappeler de l'écriture. Et
globalement, vous êtes satisfait de comment vous avez réussi l'exercice?
C'était pas un exercice, c'était plutôt un plaisir. Ouais.
Oui, voilà.
C'est pas comme ça, en tout cas.
Oui, le but, c'est pas d'avoir le plus gros score, c'est de passer un bon moment. Je vous remercie. Bonne soirée.
Bilan de l'exercice, 30 fautes pour Robin Hulin et 18 pour moi-même. Je remporte donc ce duel acharné que nous nous sommes livrés, à charge de revanche l'année prochaine, évidemment.
L'alternative.
C'est la fin de cette émission, on se retrouve le mardi 8 octobre, même heure. Nous serons avec la Ligue du cancer du sein qui donne, comme chaque année, durant ce mois d'octobre rose, une campagne de sensibilisation au cancer du sein. On reviendra aussi sur le projet de loi de l'aide à mourir avec le délégué sartois de l'ADMD. À bientôt sur notre antenne.
Radio Alpa, l'alternative.